Nous allons parler ce matin d'immigration et d'intégration. Le débat s'est noué depuis quelques années autour de la question brûlante des sans-papiers, qui sera assurément très présente dans les prochaines campagnes électorales. Mais nous savons bien que l'affaire est beaucoup plus large. Il s'agit de savoir selon quelles règles, quelles modalités, quelles régulations une nation démocratique peut et doit accueillir en son sein des gens venus d'ailleurs. Et tout cela en une époque où la construction de l'Europe apporte de nouvelles interrogations. Or, il apparaît que le précédent de la Rome antique pourrait bien être à cet égard riche d'enseignements, puisque l'Empire romain, tout au long des étapes de sa formidable extension, a dû forcément se poser ce problème essentiel et travailler à le résoudre. Claudia Moatti, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Paris 8, Paris 8 Saint-Denis-Vincennes, a eu de longues mains le goût de travailler sur cette grande question et de l'éclairer à partir de nos interrogations et de nos incertitudes contemporaines. Avec elle, nous allons regarder la manière dont Rome a dessiné progressivement la notion de citoyenneté, comment elle l'a étendue de siècle en siècle, la façon dont elle a traité la langue des autres, de quelles tentations racistes peut-être elle a triomphé, quelles étapes elle a définies pragmatiquement pour cette extension progressive d'elle-même à partir du noyau premier de sa fierté nationale et civique. Sans oublier, pour ne pas pécher par un optimisme excessif, les conditions dans lesquelles Rome a été finalement submergée de l'extérieur. Mais en tirant la leçon des procédés grâce auxquels pendant si longtemps, elle a su s'enrichir et se renforcer grâce à tant d'apports extérieurs.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages,
France de Charles Trenet, mise à sa main par Rachid Tah, avec la collaboration du groupe Carte de Séjour, un enregistrement de 1986. Claudia Moatti, bonjour.
Bonjour.
Nous voilà d'entrée de jeu, plongée dans la question de l'adaptation de l'autre, de l'étranger, dans la cité. Mais avant d'arriver à Rome, je crois qu'il est indispensable que nous revenions quelque peu en arrière, à la notion même de cité, c'est-à-dire par conséquent à Athènes.
Oui, Athènes et bien d'autres, parce que la cité est effectivement un phénomène général dans le bassin méditerranéen, phénomène qu'on trouve aussi bien dans le monde grec, dans le monde phénicien, punique, romain bien sûr, et qui s'oppose aux grandes monarchies orientales sur divers plans.
On pense au grand livre de Fustel de Coulanges, la cité antique.
Oui, la cité antique, il y a des traits communs à toutes ces cités du bassin méditerranéen. D'abord, il faut définir la cité. La cité, c'est un petit état, un petit État qui a une définition physique, c'est un territoire restreint. Il y a à la fois un territoire et sur ce territoire un chef-lieu, on dira l'ourps en latin. Et puis, ce petit État a aussi une définition institutionnelle, c'est-à-dire qu'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen les mêmes institutions. Un Sénat, c'est-à-dire un conseil, des assemblées du peuple.
Conseil des anciens, Sénat.
Conseil des anciens, des assemblées du peuple, des magistrats. Et ça, c'est un phénomène absolument général.
Qui est apparu à peu près à quel moment chronologique de l'histoire des hommes?
Fin 6e siècle, 5e siècle. Il atteint son épanouissement, disons, au 5e siècle dans le monde grec.
Concomitamment, à beaucoup d'endroits à la fois.
Oui, absolument. Disons que là, le phénomène de la cité est même un peu antérieur, mais disons que son épanouissement est à peu près contemporain de cette époque. Alors, ce qui est très important, c'est que ces institutions, et là encore, c'est un trait commun à toutes ces cités, ces institutions ont pour vocation à la fois l'élaboration de la norme et surtout la participation de tous les citoyens à la gestion de la cité. Et cette participation, c'est là le trait commun des cités antiques, cette participation est directe. Alors voilà, on a là élaboration de la norme, participation directe de tous les citoyens aux affaires de la cité, c'est-à-dire à la décision politique. Ça, c'est particulièrement caractéristique des cités. Et c'est en cela que la cité s'oppose à ces monarchies où les habitants sont des sujets soumis à un monarque et non pas des citoyens actifs capables de participer à la décision politique.
Mais pour que cette intervention soit directe, il faut évidemment que la cité garde une dimension restreinte, limité pour qu'il puisse être sur l'agora et être là.
On verra, c'est une des questions importantes qui se posent dans la définition du modèle romain. Mais c'est
bien
vrai
sûr,
que dans la philosophie politique grecque, par exemple...
Au départ, dimension limitée.
La dimension doit être limitée. Il n'y a pas seulement la dimension limitée, il y a aussi le fait que, et c'est le cas d'Athènes par exemple, il faut maintenir une certaine unité, disons, ethnique, à l'intérieur de la cité.
Ça veut dire qu'il y a des Athéniens de fait qui sont exclus de la citoyenneté. C'est ça que ça veut dire.
Non, à partir du moment où on est athénien, on est citoyen d'Athènes et donc on est participant des droits civiques à part entière.
Il y a des habitants d'Athènes qui ne sont pas citoyens.
Il y a par exemple les métèques qui sont des étrangers qui ont un certain nombre de droits mais qui n'ont pas les droits civiques à proprement parler. Il y a les esclaves. Il y a donc une certaine partie de la population athénienne qui n'est pas citoyenne. Mais ce à quoi je voudrais faire allusion plus précisément, c'est le problème justement de l'origine des citoyens. Le mythe fondateur d'Athènes, et c'est là la grande différence avec Rome, c'est l'autochtonie, c'est-à-dire l'origine de la cité, c'est une communauté ethnique homogène. Les habitants sont nés, comme on le dit littéralement, de la terre même. Et c'est donc dans la définition même de la cité athénienne une identité entre citoyenneté et identité nationale et nation, au sens où les anciens entendaient le mot nation, c'est-à-dire comme communauté ethnique unifiée.
C'est illustré par la fameuse loi de Périclès de 451 qui stipule que seuls les garçons nés d'un père et d'une mère athéniens sont proclamés citoyen athénien, c'est vraiment ce que nous appellerions le droit du sang opposé au droit du sol.
C'est une certaine façon le droit du sang, bien que cette expression, à mon avis, soit beaucoup plus tardive. Mais
ce que nous appelons, c'est anachronique, mais c'est un peu ça tout de même, c'est pas tellement.
Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a une restriction, en tout cas, au droit de la citoyenneté. Mais ce qui est très intéressant, c'est peut-être encore plus dans ce mythe fondateur qui est un mythe officiel de l'État athénien. C'est en ce sens que Rome va s'opposer radicalement à Athènes, elle va prendre Athènes comme une sorte de contre-modèle.
Comment se dessine ce contraste ?
Eh bien, d'abord, dans le mythe de fondation lui-même, ce qui est intéressant, c'est que les Athéniens, les Grecs, connaissaient trois mythes de fondation. Il y a le mythe par autochtonie, c'est celui d'Athènes et de quelques autres cités. Il y a le mythe par immigration, ce sont les colonies grecques qu'on fonde dans le bassin méditerranéen, notamment en Grande-Grèce. Oui. Et puis, il y a le mythe de fondation par mélange de peuples. Et ce mythe de fondation a été vraiment méprisé par les Grecs et il était attribué le plus souvent aux barbares. Et c'est le mythe de fondation des Romains.
On peut parler de racisme ou c'est également un anachronisme à propos de l'état d'esprit des Athéniens ?
C'est toujours une question délicate de parler du mot racisme. En tout cas, il y a un orgueil évident, il y a un exclusivisme grec liée à une définition restreinte de la citoyenneté.
Bon,
on peut dire des choses comme ça.
Le mot est plus prudent, plus pudique.
En tout cas, clairement, pour les Romains, Rome suivait un autre modèle. Il y a un fameux passage de Tite-Live où il dit « On connaît tous ces mythes de fondation qui essayent de faire croire que les habitants sont nés sur le sol même de la cité. Mais tout ça, c'est une fiction. Les peuples sont des peuples qui, dès l'origine, sont mélangés. »
Donc Tite-Live se pose d'entrée de jeu comme hostile à cette doctrine athénienne.
C'est pas seulement Tite-Live, c'est la théorie romaine. Et cette théorie, elle s'impose donc à la fois à travers le mythe de fondation de Rome. Rome est une cité fondée par un mélange de peuples. D'abord, immigration, les Troyens arrivés en Italie, et puis mélange de peuples, selon des traditions très, très diverses. Puis, une cité ouverte aux étrangers. Et on le sait dès l'origine, dès l'époque archaïque, Rome est une cité réellement ouverte avec l'apparition de populations venant d'ailleurs.
Est-ce qu'au début, eux-mêmes, ce n'est pas une minorité de citoyens romains dans les premiers temps qui en fait est opposée à aux nombreux esclaves, aux affranchis, aux étrangers qui vivent dans la cité? Dès les débuts, en fait, cette ouverture fonctionne.
Non, la constitution même de la cité romaine est fondée sur des mélanges. Et c'est devenu une théorie ensuite, ça a été théorisé
après
ensuite.
Coup.
Mais au fond, toute l'origine même de la constitution de la cité, dans ses différentes étapes, qui est en partie légendaire, mais cette origine même de la cité, on le sait aussi par des documents très anciens qui nous montrent que dès l'origine, il y a des noms d'origines différentes dans la population romaine. Et ça n'a fait que se confirmer notamment par la politique de concession de la citoyenneté dont les Romains ont été extrêmement généreux. Une politique qui s'opposait, justement, on oppose souvent ces deux termes, une politique qui s'opposait à la frilosité des Grecs en matière de distribution de citoyenneté.
Est-ce que ce n'est pas une question qui soulevait à l'époque des Gracques, quand Caius Gracchus veut...
Curieusement,
il y a des résistances.
Oui, il y a absolument des résistances.
C'est pas aussi facile, peut-être pas tout à fait aussi simple que vous nous le dites. En tout cas, aussi, il y a eu des résistances. Ça ne s'est pas passé sans que certains protestent ou réagissent.
Oui, il y a eu des résistances à partir du moment, je pense, où la citoyenneté est devenue aussi un privilège. À la suite des conquêtes à Rome, il est évident que être citoyen devenait quelque chose de tout à fait extraordinaire. On profitait du butin, on profitait de terres que distribuait l'État romain à ses citoyens les plus pauvres. On a profité ensuite du blé public. Et donc le fait que cette dimension privilégiée, si vous voulez, de la citoyenneté se soit développée, ça a provoqué des résistances pour le partage de cette citoyenneté avec d'autres. C'est aussi à ce moment-là que commence à arriver l'idée qu'il faut donner aux Italiens, à tous les Italiens, la citoyenneté romaine.
Il y a les aspects matériels et puis il y a les aspects politiques, c'est-à-dire en somme, qui a le droit de vote, qui s'exprime. Je voudrais, puisqu'ici nous jouons à des va-et-vient avec le présent, vous faire entendre un débat tout récent où se sont retrouvés Jean-Luc Benamias, un des porte-parole des Verts, et Charles Pasqua, le 2 mai 2000, à l'occasion des élections municipales de l'année dernière. C'était sur France Inter.
Si on veut qu'il y ait réellement participation, intégration des populations qui vivent sur différents territoires, en France comme ailleurs, je pense que c'est une des solutions. Évidemment, il y en a une autre solution, c'est de faciliter la naturalisation, des choses comme ça. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il est très difficile et très long de devenir français aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des processus divers et variés. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des résidents étrangers iront voter comme un seul homme ou comme une seule femme. Ça veut dire qu'un certain nombre d'entre eux pourront le faire et donc pourront participer à la citoyenneté, pourront participer à l'intégration dans le système français, dans le système européen.
Pour nous, la notion de citoyen et celle de nationalité ne se divisent pas. On est citoyen quand on est national, quand on est soit par la naissance, soit par la naturalisation, on a acquis la citoyenneté. Et donc je ne suis pas favorable à cette proposition de loi. Je crois qu'il n'est pas exact de dire que la naturalisation est difficile. C'est un peu...
Si,
On peut favoriser, on peut accélérer le processus. Dès lors que les gens sont réellement intégrés, qu'ils parlent parfaitement notre langue, qu'ils ont assimilé notre culture, pas pour quelle raison, on ne leur donnerait pas la nationalité. L'année dernière, il y a quand même 180 000 étrangers qui ont été naturalisés. On peut aller plus loin dès lors que les conditions sont réunies, dès lors que les gens... La différence est de taille. Quelqu'un qui demande sa naturalisation, c'est qu'il veut devenir français. Ce n'est pas une obligation. Il veut devenir français, donc il accepte les lois de la République. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose.
Il y a deux philosophies qui s'opposent, là, Claudia Moati, entre Charles Pasqua qui dit « commencer par être naturalisé et nous acceptons d'intégrer dans la citoyenneté des étrangers, comme nous l'avons toujours fait, et ensuite vous aurez le droit de vote », et Ben Amias, au nom des Verts, qui vient dire « élargissons le droit de vote aux étrangers, pas seulement aux Européens, aux étrangers, et ce sera une sorte d'étape vers l'intégration à la France, si vraiment ça paraît finalement nécessaire ». Est-ce que ce type d'opposition est peut-être éclairé par le rapprochement avec la Rome antique?
Ben oui, d'une certaine façon, les Romains ont pratiqué les deux. Par exemple, il existait un statut qui était légèrement inférieur, disons, en tout cas proche, mais un peu différent de la citoyenneté romaine, qui était le statut de citoyen latin. Il fallait appartenir donc à une cité de statut, je dis bien que ce n'est pas du tout l'ethnie, hein, c'est de statut latin qui avait un certain nombre de privilèges avec les, par rapport à la citoyenneté romaine. Et c'était par exemple, les latins avaient le droit d'épouser une romaine et le mariage était légitimement reconnu.
Les privilèges moindres tout de même, j'ai une sorte de hiérarchie.
Il y a une hiérarchie.
Mais on a moins de privilèges que si on est citoyen romain.
Bien sûr.
Je comprends bien, oui.
Donc ce sont quand même des étrangers, si vous voulez, ce qu'on appelle les pérégrins dans le monde latin. Ce sont des non-citoyens romains, mais ils avaient un certain nombre de privilèges qu'ils partageaient avec la citoyenneté romaine. Donc, le droit de mariage, le droit de commercer et donc de voir les accords commerciaux protégés. Et surtout, ces latins avaient le droit, s'ils s'installaient à Rome, de venir voter dans les tribus romaines.
Ça, c'est Ben Amias, c'est la thèse Ben Amias contre
Ben Amias, c'est-à-dire qu'en fait, il était possible pour un certain nombre de gens qui étaient assez proches du modèle romain, qui parlaient la même langue, qui avaient une certaine connaissance du fonctionnement des institutions, s'ils s'installaient à Rome, de participer à un certain nombre d'assemblées. Mais inversement, pour l'ensemble de la population étrangère, les Romains ont d'abord donné leur citoyenneté avant d'accorder les droits civiques. En dehors de ce statut de latin, si vous voulez, il y a eu plutôt tendance à donner la citoyenneté avant d'accorder les droits. Mais on a donné énormément la citoyenneté romaine, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la France d'aujourd'hui ou des États-nations d'aujourd'hui où la distribution, la concession du droit de cité est quand même difficile à obtenir et le résultat d'un long processus.
Oui, mais on est citoyen ou on l'est pas, et on l'est complètement ou bien on l'est pas du tout dans le cas de la France aujourd'hui, alors que le rapprochement peut-être serait plus pertinent avec situation de l'Empire colonial français autrefois, où il y avait des citoyens de seconde zone, comme on disait. Là, vous me parlez de citoyens de seconde zone dans le cas de Rome.
Non, ce sont des citoyens qui ont leur propre citoyenneté. Ils ne sont pas des citoyens romains de seconde zone. Ce sont des citoyens latins, par exemple, qui ont leur propre citoyenneté. Ils font partie d'une cité à part entière. Mais s'ils viennent s'installer à Rome, c'est comme si c'était, au fond, des citoyens d'un autre pays de l'Europe, en quelque sorte, qui, venant s'installer à Paris ou dans une ville de France, pourraient voter, avoir un droit de vote dans le cadre de la commune dans laquelle ils se trouvent. De la même façon, les latins avaient leur propre citoyenneté. Ce n'étaient pas des citoyens romains de seconde zone, ce sont des citoyens latins. Et venant à Rome, ils pouvaient voter avec les Romains.
Mais vous me disiez aussi que cela impliquait moins de droits que s'ils avaient été citoyens romains. Alors, ne dites pas seconde zone, mais dites-nous, admettez, enfin, je vous écoute et je vous suis. Il y a une hiérarchie tout de même dans le niveau de citoyenneté.
Oui, mais ce sont deux citoyennetés à part entière. C'est-à-dire que ils ne font pas partie de la citoyenneté romaine. Mais en tant qu'étrangers, quand ils s'installent à Rome, c'est-à-dire quand ils sont résidents à Rome, ils peuvent participer à certaines élections. Donc en fait, ce sont des étrangers, si vous voulez, c'est le cas de la première hypothèse, ce sont des étrangers qui, parce qu'ils s'installent à Rome, parce qu'ils participent à la vie quotidienne de la ville de Rome, peuvent participer aux élections en tant qu'étrangers et non pas en tant que citoyens de seconde zone, ce qui est complètement différent de la situation coloniale française.
Oui, on peut pas néanmoins s'empêcher de penser que certains d'entre eux auraient pu chanter comme Joséphine Baker, « J'ai deux amours ».
J'ai deux amours, mon pays et Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi, ma savane est voir un jour. C'est mon rêve, un joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Quand sur la rive, parfois, au lointain, j'aperçois un paquebot qui s'en va. Vers lui, j'étends les bras et le cœur battant des emporte-moi
tes deux amours,
di, 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 di.
Ton pays est Paris,
di, 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 di.
Pars toujours,
di, 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 di.
Que ton cœur est ravi,
à signaler à nos auditeurs, Claudia Moati, que je vous ai vu marqué par une moue dubitative, quelques reculs par rapport au rapprochement que j'ai esquissé entre Joséphine Baker et vos citoyens latins. Et
non, en quoi, non, il y a un point commun. Quand elle dit « J'ai deux amours, mon pays et Paris », on est au fond, si on a un peu d'ouverture d'esprit, dans la même situation que les citoyens romains qui avaient obtenu la citoyenneté romaine, mais qui n'étaient pas d'origine de Rome. C'est-à-dire, prenons un exemple, ces fameux Italiens qui, au 1er siècle avant notre ère, obtiennent massivement la citoyenneté romaine, eh bien, ils ont deux pays, ils ont une double patrie, ils ont la citoyenneté romaine, mais ils gardent leur attache avec leur cité d'origine.
Les Antilles de Joséphine Baker.
Oui, d'une certaine façon. Ça a été très bien théorisé, cette idée, et je crois que c'est une idée importante parce qu'aujourd'hui, elle a une résonance particulière dans le cadre de la Constitution de l'Europe. C'est une idée qui a donc été théorisée par, notamment par Cicéron dans son fameux ouvrage Le De Legibus, le traité sur les lois, où il explique précisément que tout citoyen romain qui a obtenu donc la citoyenneté par une concession de l'État romain, tout citoyen nouvellement romain a deux patries. Une patrie d'origine avec laquelle il ne rompt pas, ce qu'il appelle la patrie de nature, et puis une citoyenneté de droit, celle qui était Rome. En fait, il n'emploie pas le mot citoyenneté, je devrais dire plutôt on a deux patries, mais on n'a qu'une citoyenneté, celle de Rome. L'appartenance à Rome est la seule qui donne le titre de citoyen. Avec le reste, avec la patrie d'origine, on a des rapports affectifs, on a toute une histoire, on a toute une culture qui n'est pas niée par l'acquisition de la citoyenneté romaine. Alors ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a la définition de deux niveaux. Une appartenance politique, comme dirait Habermas, une culture politique commune,
oui.
Qui définit donc la notion de citoyenneté, et puis une appartenance historique, culturelle, traditionnelle, qui ne disparaît pas dans la citoyenneté romaine. Et c'est la superposition, la coexistence des deux qui définit le nouveau citoyen romain.
Vous prenez Habermas comme théoricien d'une certaine Europe à construire. Alors, est-ce que ça veut dire que, sous cette lumière, le rapprochement avec l'Empire colonial dans le passé est moins intéressant qu'un rapprochement avec l'Union européenne en construction et tous les défis qu'elle pose?
Oui, je crois qu'il est beaucoup plus intéressant et encore plus utile, je crois, de réfléchir sur la construction du modèle européen à partir de cette citoyenneté romaine.
Ce sera un des défis que les responsables de la Convention, qui est en train de se mettre en place sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, un des défis qu'ils vont avoir à affronter.
Oui, absolument. La définition d'une citoyenneté européenne par rapport à la citoyenneté nationale et ensuite par rapport aux appartenances locales. Parce qu'il y a en fait ce qui change avec l'Europe par rapport au modèle romain, si vous voulez, c'est qu'il y a trois niveaux. Il y a le niveau local, la patrie de nature, il y a le niveau étatique, nationale, disons, de la citoyenneté nationale que chacun a, français, espagnol, allemand, etc. Et puis la citoyenneté européenne. Qu'est-ce qu'on va faire de ce troisième niveau ? Peut-être faut-il réfléchir soit en termes romains, ce qui voudrait dire une superposition, soit comme le faisait Valéry Giscard d'Estaing dans une émission récente, en termes de juxtaposition de deux citoyennetés, ce qui ne va pas sans poser de problème parce qu'il faut articuler deux citoyennetés qui voudraient dire articuler deux niveaux politiques. Alors que dans le monde romain, au fond, il y a une articulation entre le niveau politique de la citoyenneté et puis le niveau culturel de la vie locale.
Il y a un aspect poupée gigogne qu'il n'y a pas dans la conception de Giscard d'Estaing telle que vous l'avez résumé.
Exactement. Ce qu'il faut quand même ajouter pour le modèle romain, et là aussi je crois qu'il y a une modernité de cette réflexion romaine, pour un citoyen romain d'origine, disons, italienne ou ibérique ou syrienne, eh bien il y avait l'appartenance à la cité de droit, celle de Rome, mais il y avait l'appartenance à la cité locale qui exigeait quand même une participation active sur le plan politique. L'autonomie des cités dans le monde romain est restée quelque chose d'extrêmement important, et c'est sur cette autonomie des cités que l'Empire a pu se maintenir.
En somme, sans être trop anachronique, on retrouve la notion de subsidiarité qui est tellement présente dans les débats sur l'Europe aujourd'hui. Autrement dit, quelle division verticale fait-on entre les responsabilités du centre et les responsabilités politiques des parties diverses de l'ensemble?
Oui, sauf que dans le monde romain, on est dans un état où Rome a une position hégémonique. On est dans un empire. On n'est pas dans une fédération, comme ce sera peut-être le cas de l'Europe.
Mais ça, c'est une différence fondamentale. Oui, pendant toute l'histoire de l'Europe, il y a des gens qui ont souhaité, bien sûr, construire autour d'un centre, d'une puissance centrale. Et puis, nous en sommes aujourd'hui dans une phase historique tout autre. Et là, c'est plutôt la différence qui frappe par rapport à Rome que la ressemblance. Oui, mais néanmoins, vous dites aux responsables de la Convention, il faut reprendre votre histoire romaine.
Il faut absolument relire Rome pour réfléchir à l'Europe d'aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que Rome va nous dire à cet égard de plus sur la façon dont les choses se sont passées, en particulier du point de vue non plus étroitement politique, mais du point de vue de l'acculturation, autrement dit des relations entre les différentes cultures. On ne cesse pas de répéter que l'Union européenne ne pourra se faire, même avec une identité européenne, aujourd'hui, que si elle respecte la diversité des cultures, si elle n'essaie pas de les fondre dans une sorte de grisaille que donneraient toutes ces couleurs mélangées.
Oui, c'est un grand problème que se posent les juristes, notamment. La question de savoir s'il faut uniformiser les droits, les harmoniser ou maintenir un pluralisme juridique en Europe.
Juridique et culturel. Alors, prenons d'abord le droit.
Prenons d'abord le droit. Et c'est là encore, je crois que le modèle romain peut nous apporter non pas une situation analogue, mais une réflexion, un point de départ, un point d'ancrage. Oui. De la même façon que le jus commune au Moyen-Âge est un détour par lequel les juristes d'aujourd'hui essayent de réfléchir. Ce que Rome a réussi à maintenir, non pas par principe, parce qu'au fond, il n'y a pas de principe général qui régit l'Empire romain, mais plutôt des situations pragmatiquement gérées, pragmatiquement analysées. Mais ce qui a été maintenu dans l'Empire romain, sur le plan du droit, mais on peut parler de la langue, on peut parler des religions, c'est à la fois donc une unité, un niveau politique unitaire et des différences, des pluralismes sur le plan local. Il est très intéressant de voir que le monde romain est parcouru avant notamment l'édit de Caracalla de 212 qui donne la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire.
212
à peu
après
près,
Jésus-Christ, une date essentielle, évidemment.
Date essentielle qui unifie l'Empire, mais en fait qui ne l'unifie même pas sur le plan de l'organisation juridique. Mais en tout cas, avant 212, et on peut dire encore même jusqu'à la fin du IIIe siècle de notre ère, il y a un pluralisme juridique, une coexistence entre le droit romain, qui est réservé aux citoyens romains. C'est un privilège d'être citoyen romain, d'un côté, et puis de l'autre côté, les droits locaux, qui ont plutôt un statut de coutume, mais qui sont respectés dans l'ensemble du bassin méditerranéen.
Mais quand il y a un choc entre ces coutumes et le droit romain, à hauteur des élites, qu'est-ce qui se passe?
Ça dépend. On tranche soit dans un sens, soit dans un autre. La latitude, la tolérance est laissée aux juges, aux gouverneurs de province. Il n'y a pas de règle générale qui l'emporte. C'est vraiment traité au cas par cas.
Ça pourrait intéresser même les négociateurs actuels sur la Corse, quand on réfléchit à l'éventualité qu'il y ait une sorte de modulation de la législation nationale dans l'île de Beauté, comme nous savons.
Oui, il faut une certaine souplesse quand on commence à gérer de grands territoires.
Rome apprend la souplesse.
Rome apprend la souplesse. Je ne parlerai même pas de tolérance, mais en tout cas de souplesse, parce que le principe général ne peut pas l'emporter. La domination romaine s'est faite sur un certain nombre de sur des territoires tellement différents. Si vous prenez l'Égypte, qui a une tradition bureaucratique très forte, si vous prenez la Grèce, qui a une tradition d'autonomie des cités extrêmement longue, on ne pouvait pas gérer tous ces territoires de la même façon. Et donc,
encore,
Rome s'est adapté.
Encore, c'est manière... pensé à l'Allemagne, à la France, à l'Italie aujourd'hui, par rapport à l'Europe. Rome s'est adapté et a théorisé ça. Il faudrait que vous nous rappeliez un très beau texte que je sais que vous aimez bien de Aelius Aristitsos. Rome s'est adapté.
Oui, Rome s'est adaptée et bien plus que ça, même elle a fait passer ça dans un certain nombre de textes. Il y a, par exemple, une inscription très intéressante du deuxième siècle de notre ère.
Avant Caracalla, donc.
Juste avant Caracalla, dans laquelle il est rappelé que l'empereur a attribué la citoyenneté romaine à une tribu berbère. C'est ce qu'on appelle la table de Banaza. Cette inscription fait allusion au fait qu'en recevant la citoyenneté romaine, ces berbères n'étaient pas obligés de renoncer à leur droit local, à leur droit coutumier. Et je crois que c'est à cela qu'est arrivée en fait la citoyenneté romaine, c'est à une sorte de compromis, si vous voulez, entre d'un côté une citoyenneté formelle qui était extensible à l'infini, un statut formel juridique extensible à l'infini, et sur le plan local, le maintien du pluralisme juridique, culturel, linguistique, etc.
Puisque vous parlez d'Afrique du Nord, on ne peut pas, quand on est français, ne pas évoquer le souvenir des incertitudes du colonisateur français, notamment en Algérie, et le fait que ce soit in extremis, et trop tard probablement, que l'on ait proposé aux occupants antérieurs à la colonisation française, aux habitants de l'Algérie, la citoyenneté française, mais contrairement à ce que Rome avait fait dans sa sagesse, à vous entendre, c'est-à-dire une politique souple, là on est passé d'une situation de citoyens tout à fait de seconde zone, c'est pas vraiment des citoyens, à l'idée que tout le monde peut devenir des Français à part entière. Écoutez la proclamation du comité de salut public au moment du 13 mai, plus précisément c'est le 20 mai 58, sur Radio Alger qu'on entend ça.
Le comité de salut public d'Alger, réuni le 20 mai 1958, a voté à l'unanimité et par acclamation les deux motions suivantes. Motion numéro 1. Le comité de salut public du 13 mai 1958, conscient de l'union qui existe entre toutes les communautés vivant sur le sol de l'Algérie, affirme à la face du monde que désormais rien ne pourra entamer cette unité et déclare à l'unanimité que tous les citoyens de cette province sont des Français à part entière.
L'expression de Français à part entière a été d'ailleurs reprise quelques jours plus tard par le général de Gaulle lui-même, lorsque, au début de juin, il est arrivé et que dans son grand discours du forum, celui où il a dit à ses auditeurs « je vous ai compris oui », il a dit « il n'y a plus en Algérie que des Français à part entière ». Claudia Moati.
Des Français à part entière, est-ce qu'on pourrait dire des citoyens romains à part entière? Je crois que c'était le cas à l'époque républicaine. Quand Rome donnait sa citoyenneté, elle l'a donnée franchement.
Et pas trop tard, comme dans le cas de la France pour l'Algérie. Supposé qu'on ait souhaité que ce soit durable, parce que ça aurait fait une France évidemment tout autre.
C'était si autre chose, oui. Il se trouve qu'avec l'arrivée de l'Empire, la citoyenneté perd un peu de son sens. Elle perd son sens politique. On est citoyen, mais au fond, on n'exerce plus vraiment de droits politiques.
Le régime est autre.
Le régime est autre. Et donc la citoyenneté devient une sorte de statut social auquel sont attachés un certain nombre de privilèges.
Social et culturel, peut-être.
Oui, social et culturel, oui, d'une certaine façon. Et à partir de ce moment-là, de nouvelles distinctions apparaissent à l'intérieur de la citoyenneté romaine qui sont fondées sur des critères sociaux. On voit apparaître deux catégories de citoyens, les humiliores, qui sont les citoyens de basse extraction, en quelque
sorte.
Les humbles, les plus humbles, et qui ont un traitement pénal, notamment dans le domaine donc judiciaire inférieur. Et les honestiores, c'est-à-dire l'élite de Rome, aussi bien à Rome que dans les provinces, qui,
ça
eux...
Ça a donné l'honnête homme au
XVIIe siècle. Et qui, eux, se voient attribuer des privilèges dans le domaine judiciaire. Un traitement différent, en tout cas sur le plan judiciaire, par exemple, qui est totalement spectaculaire. Alors là, on a vraiment deux niveaux de citoyenneté, d'une certaine façon, à partir du moment où la citoyenneté s'est devenue devenu simplement un privilège, un statut social plus qu'un statut politique.
Là, c'est inconcevable dans l'idée moderne de la citoyenneté. On n'imaginerait pas que des citoyens français soient traités différemment devant les tribunaux, par exemple.
Mais c'est là la différence fondamentale de la société romaine, qui est une société très hiérarchisée. Et la hiérarchie est passée à l'intérieur de la citoyenneté, dans le domaine judiciaire, sous l'Empire. Voyez en quoi, à la citoyenneté en général, reste assigné, si vous voulez, le privilège particulier, qui est le droit d'appel, la protection juridique. Et c'est la fameuse scène connue de Saint Paul, qui, condamné à mort par un tribunal romain, fait appel à l'empereur pour pouvoir justement échapper à la mort et être jugé directement par l'Empire. Je suis citoyen romain.
Civis Romanus sum.
Oui,
on apprenait ça.
Ce qui lui permet d'échapper à la mort immédiatement.
Et ce qui conduit peut-être à quelques réflexions sur le cas particulier des Juifs. Comment l'Empire romain les a-t-il traités? Si c'est un cas particulier.
Oui, c'est un cas particulier. En même temps, c'est une bonne illustration justement de la diversité des traitements de l'ensemble de la population. Alors, il s'agit, pour ces Juifs, il faut rappeler quelques événements. Les Juifs entrent dans la domination romaine en 63 avant notre ère. Et ils reçoivent un statut de César quelques années plus tard, qui est un statut tout à fait privilégié. Ils reçoivent le droit d'association, le droit d'avoir un lieu de culte, la synagogue, le droit de pèlerinage. Bien d'autres droits, les droits spécifiques que les autres n'ont pas, et notamment le droit du Shabbat, qui est quelque chose de très important, parce que des Juifs pouvaient très bien être dans l'armée, et le droit du Shabbat leur donnait la possibilité de ne pas se battre,
porter les armes
un samedi.
Tous les problèmes que pose à notre laïcité, par exemple, l'autorisation éventuelle donnée aujourd'hui aux étudiants juifs pratiquants de ne pas passer un examen le samedi. Au fond, cette question-là qui est si prégnante, s'était déjà posée à Rome. C'est intéressant.
C'était déjà posé parce que Rome avait décidé que elle admirait beaucoup dans la communauté juive le fait que les Juifs étaient capables de respecter leurs traditions. Et en tant que tel, que ce fussent des traditions religieuses ou des traditions civiles, on ne fait pas la différence à Rome à cette époque, à la fin de la République et sous l'Empire jusqu'à l'époque chrétienne au fond. Ce sont les chrétiens qui feront la différence entre les lois civiles et les lois religieuses. Mais pour les Romains, donc, les Juifs étaient une nation dont l'unité, le ciment était extrêmement fort autour des traditions ancestrales.
Là, on touche quelque chose de très important, surtout si on rapproche des décisions des révolutionnaires qui disaient qu'ils voulaient donner tout aux Juifs en tant qu'hommes et rien en tant que nation. C'est le contraire qui se passe à Rome.
C'est le contraire qui se passe à Rome avec les Juifs.
On est très loin, là, de ce point de vue-là, d'une citoyenneté qui reste très marquée par une certaine tradition jacobine, qui concerne des individus semblables posés côte à côte. Là, on accepte l'idée d'organicisme national, non, Claudia Motti?
Oui, bien sûr, mais sauf que les Juifs, à ce moment-là, ne sont pas des citoyens romains. En tout cas, tous ne sont pas citoyens romains.
Mais Saint Paul l'est, vous nous rappelez que Saint Paul l'était.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que parmi la communauté juive, il y a des citoyens romains et il y a des gens qui ne sont pas citoyens romains. Mais tous en tant que nation, et là vous avez votre rapprochement est tout à fait juste, tous en tant que nation, ils reçoivent ce droit. Ce qui veut dire qu'un citoyen romain d'origine juive, de nation juive, avait les mêmes droits qu'un juif qui n'était pas citoyen romain. Et donc un citoyen romain de nation juive avait des droits différents des citoyens romains qui n'était pas juif.
Vous pensez que ça aussi, ça peut être utile pour la construction européenne d'aujourd'hui? Utile à rappeler, utile à comprendre?
Je ne crois pas qu'on puisse raisonner de la même façon. Là, on a vraiment affaire
On atteint vraiment un noyau dur de différence.
Sauf que, si on prend la notion de nation au sens strict du terme, ça concerne aussi bien aujourd'hui les États-nations. C'est-à-dire qu'en fait...
Au sens actuel du terme.
C'est-à-dire que la nation juive, aux yeux des anciens, c'est précisément une communauté homogène qui a une unité d'origine, mais qui a également une unité de pratique juridique. De ce point de vue-là, d'une certaine façon, l'Europe aura affaire précisément à ces groupes, à ces entités qui ont une tradition commune, qui ont des lois communes et qu'elle devra non seulement gérer, mais harmoniser peut-être les unes avec les autres. Donc dans ce sens, oui, on peut dire que cette question du statut des Juifs dans le monde romain peut être une question un point de réflexion intéressant pour la construction européenne.
Là maintenant, Claudia Motti, je voudrais que nous braquions l'attention, nous focalisions notre regard sur l'URBS, sur la ville, sur la capitale. Rome étant forcément une sorte de microcosme au sens propre de l'immensité, de la diversité des peuples qui composent l'Empire. Disons, prenons l'époque des Antonins, enfin, le grand moment de l'Empire, par exemple. Et comment est Rome? De ce point de vue-là, ça nous intéresse par rapport à notre présent, là aussi, par rapport au grand débat, la diversité d'origine, par exemple, des Français.
Ma grand-mère est italienne, mes voisins espagnols. Une famille vietnamienne habite à l'ancienne école. Trois familles maghrébines, il y a aussi des Polonais qui travaillent à la mine, sans oublier les Français. Mais il y a aussi un berger allemand, un lévrier afghan, une voiture japonaise, une trottinette qui vient d'Angleterre et des chats de gouttière aux yeux perçants. Dans ma rue, quand on passe, ça sent rudement bon. La paella et le couscous, et la soupe de poisson, les sardines grillées, les rouleaux de printemps, les pâtes au parmesan, et le thé au bleuet. Mais ce que j'adore, c'est entendre parler entre les étrangers, comme c'est étrange. Buenos días, arrivederci, marabá, hélà, targ buisson. Ma grand-mère est italienne, mes voisins espagnols. Une famille vietnamienne habite à l'ancienne école. Trois familles maghrébines, il y a aussi des Polonais qui travaillent à la mine, sans oublier les Français. Mais d'où sont-ils les nuages? Mais d'où sont-ils les nuages en voyage au-dessus de la ville?
C'était « Étrange étranger », une chanson composée et interprétée par Gilles Chauvet. Claudia Moitti, là on est dans le cosmopolitisme prétendu de la France et ça rejoint peut-être le cosmopolitisme de la Rome antique.
Oh oui, Rome est une ville cosmopolite. Et d'ailleurs il y avait chez les historiens, les écrivains latins et grecs, toute une série d'expressions qui visaient à désigner Rome. Alors on disait « Rome est formée de la réunion des nations ». On l'appelait l'épitomée du monde.
L'épitomée, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire un résumé, en quelque sorte, du monde entier. Un assemblage de nations. Et effectivement, la Rome antique, la ville de Rome, cette fois, prenons-la au sens restreint du terme, la civitas, la cité de Rome, était une cité cosmopolite où tout le monde passait.
Il y avait des quartiers comme dans New York aujourd'hui, par exemple, ou San Francisco, il y avait des regroupements par nation.
On le sait, pour un certain nombre de regroupements, on ne sait pas si c'était systématique, mais par exemple, on sait très bien où se trouvait la communauté juive, par exemple, dans le Trastevere, de l'autre côté du Tibre. En quelque sorte, il y avait les juifs, les syriens,
avec des restaurants spécifiques, on allait dans... Vous pensez qu'on sait, on sait ça?
S'il y avait des restaurants, des cuisines particulières. Des auberges.
Bon, alors je ne bouge pas sur ce point.
Local.
Donc, mais il y avait des communautés.
Locales. Mais il y avait des communautés et les communautés, de marchands, notamment. Rome était un port, il faut pas l'oublier, à travers le port d'Ostie, un port extrêmement actif, un centre commercial immense, enfin, un ventre, on pourrait dire. Et, la circulation des étrangers dans la ville de Rome est une chose qui frappe tous ceux qui y passent. On entend des langues différentes. César, par exemple, avait donné, lors de son triomphe, des spectacles de théâtre, et nous dit Suétone, il les avait donnés dans toutes les langues, pour que tous les habitants de la cité de Rome, et pas simplement la population civique, puissent y assister.
Là, ça rejoint la grande question de la éventuelle politique langagière, ce qui c'est un problème qui s'est posé au moment des colonies et qui se pose aujourd'hui de façon très très présente à propos de la construction européenne. Est-ce qu'il y a on pourrait parler d'une politique langagière de la Rome antique, une domination par la langue? Comment Rome se comporte à cet égard?
Non, il y a dans le monde romain, dans l'Empire romain, qui est un empire immense qui fait tout le tour du bassin méditerranéen, il y a deux langues officielles.
Orbis terra Romae.
Oui, c'est qui tend à rejoindre le monde entier. Mais il y a deux langues officielles, il y a le latin et il y a le grec. C'est un empire bilingue. À l'ouest, on parle plutôt le latin, à l'est, le grec, et les inscriptions officielles sont traduites en grec pour les habitants de langue grecque. Maintenant, il y a en plus de ces deux langues officielles, qui sont les langues de l'administration, les langues donc de la des grands hommes qui circulent, la langue des empereurs, la langue des magistrats.
La Grèce est à égalité, le grec est à égalité même administrativement, avant Byzance.
Oui, oui,
pas
le
seulement
grec est
culturellement.
À égalité, c'est un empire bilingue, vraiment. Le grec est à égalité, et les inscriptions, les édits des empereurs qui sont pris en latin sont traduits en grec pour que les populations puissent les lire.
Mais ça marche, ça n'alourdit pas l'administration. Tout le monde, tous les grands administrateurs sont par conséquent bilingues, parlent les deux langues.
Ceux qu'on envoie dans la partie orientale de l'Empire savent le grec. Mais du reste, vous savez, depuis l'époque républicaine, depuis même la conquête du bassin méditerranéen au IIe siècle avant notre ère, on peut dire que l'élite romaine est bilingue, elle parle grec couramment.
Pour faire carrière, il faut parler les deux langues.
Il faut parler les deux langues, et la plupart des Romains parlaient le grec. On a même de très nombreux exemples d'écrivains latins qui écrivent directement en grec. L'empereur Marc Aurèle écrit ses pensées en grec. Donc ce sont deux langues véhiculaires. En dehors de ces deux langues véhiculaires, qui sont les langues de l'administration, le latin étant la langue de l'armée. Mais en dehors de ces deux langues, ont subsisté des tas de langues très différentes, le syriaque, le punique. La langue de Septime Sévère était d'abord le punique, c'était aussi la langue d'Augustin. Mais on subsistait également l'ibérique, enfin, et on voit bien dans les textes de droit, par exemple, chez les juristes, ce souci de se poser la question de savoir si un testament qui est rédigé dans une autre langue que le latin ou le grec est quand même valable. Et on dit oui.
On dit oui.
Bien sûr.
Il n'y a pas de politique d'éradication du tout des langues, d'oppression des langues locales. De ce point de vue-là, les tenants, les défenseurs de la charte des langues régionales en France aujourd'hui sont intéressés de savoir que Rome traçait un chemin qui était assez conforme à leurs vœux.
Oui, sauf qu'on retrouve, et je crois que c'est là qu'on peut retrouver une réflexion extrêmement importante, je crois, pour la question des langues locales aujourd'hui. On retrouve quand même toujours cette idée qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau politique et il y a le niveau culturel. Il n'est pas question d'éradiquer les différences culturelles, mais elles restent au niveau culturel, et pas nécessairement écrit d'ailleurs. Il y a des langues qui ont subsisté, dont on sait qu'elles étaient parlées, mais qui n'étaient pas utilisées à l'écrit. Mais il y a l'autre niveau, qui est le niveau politique, et lui, il est réellement ou latin ou grec, mais il n'est pas une autre langue. Et dans ce sens-là, par contre-coup, si vous voulez, cette politique de la langue, mais qui s'est fait simplement au niveau politique, qui n'a pas visé à détruire les identités locales, a conduit à une homogénéisation, sans pour autant détruire les langues locales. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand l'Empire s'effondre, eh bien, ces langues ressurgissent. Non pas parce qu'elles étaient opprimées, qu'elles veulent s'exprimer, mais parce qu'elles n'ont jamais été éliminées.
Donc, en tout cas, dans l'esprit des Romains, la citoyenneté n'implique pas du tout une unification langagière qu'on aurait imposée à l'école, par exemple. En revanche, il reste une suprématie d'une ou de deux langues qui sont des langues de travail et des langues de culture dominante.
Si les Romains avaient imposé un système scolaire unifié, ils auraient imposé le latin, je pense, parce que c'est le niveau de l'espace public.
Et les élites devaient apprendre le latin, encore une fois, pour progresser,
absolument.
Pour avancer. Dans...
Et les soldats aussi, et même bien plus, c'est que les soldats devaient changer de nom quand ils devenaient citoyens romains. Parce qu'il y a un modèle d'intégration qui fait que la citoyenneté étant un statut, si vous voulez, il y a un certain nombre d'insignes, de symboles de ce statut. Il y a le port de la toge. Il y a le fait de parler latin. Ça ne veut pas dire que pour autant qu'on va empêcher les citoyens romains de parler d'autres langues.
C'est ça, des aspects d'acculturation à quoi on incite, mais qui n'est pas imposé, politique. Alors quand vous évoquez de Septime Sévère tout à l'heure, l'Africain, quand il devient empereur, il s'entoure d'Africains. Il y a pu y avoir des pulsations successives où telle province a pris dans la capitale une importance plus grande.
Oui, il y a des partis, mais ce qu'il faut tout de suite dire, c'est...
Un peu comme les Polonais du pape aujourd'hui au Vatican.
Mais exactement, il y a des groupes de pression, il y a des groupes d'alliances, des structures familiales qui demeurent très fortes. Mais ce qu'il faut dire, c'est avant tout pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est que aussi bien Septime Sévère que Philippe l'Arabe, que Constantin, l'empereur Trajan, tous ces gens-là sont d'origine provinciale, c'est-à-dire d'origine soit l'Espagne, la Numidie, soit l'Arabie, mais ils sont citoyens romains, évidemment. Ce ne sont pas des étrangers qui arrivent à Rome, mais des citoyens romains, des provinciaux qui ont obtenu la citoyenneté romaine et qui arrivent jusqu'au centre du pouvoir. Et en ce sens, la cité romaine a été un moyen de mobilité sociale, d'ouverture, de promotion indéniable dans l'ensemble de l'Empire.
Violent contraste avec Athènes, par exemple, la cité grecque. Rome a tiré, à vous entendre, une grande partie de son dynamisme, de sa capacité constante à absorber les autres, les affranchir aussi. Il y a un fameux texte de Tacite qui rappelle que si l'on mettait à part les descendants d'affranchis à Rome, la pénurie d'ingénus, c'est-à-dire
d'hommes de naissance libre,
la pénurie d'ingénus sauterait aux yeux.
Oui, c'est-à-dire que Tacite disait que la plupart des magistrats de son époque étaient certainement d'origine affranchie. Et que ça a été un mode de promotion extraordinaire. Et là, la différence avec la Grèce est fondamentale. Lorsqu'un esclave était affranchi en Grèce, il devenait métèque. C'est-à-dire avec un statut de résident étranger limité. À Rome, il devient citoyen romain s'il est affranchi par un citoyen romain. En fait, l'affranchi suit le statut de son maître.
Comme toujours en histoire, en vous écoutant, Claudia Moati, on se dit que les faits et les représentations sont intimement mêlés et que la citoyenneté romaine, telle que vous la décrivez, au fond a tiré une part de son prestige, de son efficacité, du fait que pour les élites montantes, les élites de l'ensemble de l'Empire, c'était très attirant.
Le modèle romain est extrêmement attirant et sans cette attraction, cette force d'attraction, qui n'est pas une force d'imposition, mais cette force d'attraction et sans le désir de la part des élites locales de s'assimiler, de devenir romain, peut-être l'Empire n'aurait-il pas duré si longtemps. Je crois qu'il y a, et c'est cela qui est intéressant peut-être dans ce modèle romain, il y a une sorte d'échange entre le centre et la périphérie.
Est-ce que le rapprochement ne serait pas aujourd'hui, on peut d'ailleurs le regretter, plus avec les États-Unis d'Amérique qu'avec l'Europe telle qu'elle est, en tout cas l'Europe d'aujourd'hui? On pourrait peut-être faire le rapprochement optatif avec l'Europe telle que nous la souhaiterions, une Europe à la fois très identitaire, différente et extrêmement ouverte.
Une Europe ouverte, certainement. Ça a été le cas de la citoyenneté romaine. Est-ce que l'Europe a cette vocation universelle qu'avait Rome de vouloir atteindre les limites du monde habité? Si le modèle européen démocratique a réussi à se développer jusqu'aux limites du monde habité, comme était clairement définie la mission de Rome, alors on peut tout espérer dans l'avenir.
Eh bien, ce sera un excellent mot de la fin. Claudia Moati, je signale à nos auditeurs qui souhaitent poursuivre la réflexion avec vous que vous avez traité ces questions beaucoup plus en détail dans votre livre qui s'appelle « La raison de Rome », sous-titre « Naissance de l'esprit critique » à la fin de la République romaine naturellement, que vous avez publié au Seuil en 1997. Vous avez également donné un petit livre dans l'excellente collection Découverte Gallimard 1989, il y a donc déjà 12 ans, à la recherche de la Rome antique. Il faut aussi rendre hommage au livre fondateur de Claude Nicolet, qui a inspiré beaucoup de réflexions sur la question de la citoyenneté à Rome et toute sa portée durable. Le livre s'intitule « Le métier de citoyen dans la Rome républicaine » a été publié dans la fameuse Bibliothèque des Histoires chez Gallimard en 1976. La semaine prochaine, l'actualité l'impose, nous ferons un rapprochement entre l'apparition de l'euro et la naissance du nouveau franc au début des années 60, avec la complicité de Jacques Marseille.
Il avait un air très doux, des yeux rêveurs un peu fous, aux lueurs étranges, comme tous les gars du Nord, dans ses cheveux un peu d'or, un sourire d'ange. J'allais passer sans le voir, mais quand il m'a dit bonsoir, d'une voix chantante, j'ai compris que ce soir-là, malgré la pluie et le froid, je serai contente. Il avait un regard très doux, il venait de je ne sais d'où. D'où viens-tu? Quel est ton nom? Le navire est ma maison, la mer mon village.
C'était Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet avec Agnès Chauveau, réalisation Patrick Molinier, prise de son Stéphane Desmonts, documentation Vanina Profisi, Yaël Mandelbaum et Virginie Vincienne, ainsi que pour les archives INA, Florence D'Artois et Véronique Jolivet.
De caresses, et moi, fille au cœur blasé, j'ai connu sous ses baisers une folle ivresse. Il avait un regard regard très doux. Il venait de je ne sais où. Simplement, sans boniment, j'aimais mon nouvel amant, mon époux d'une heure. Comme tous les malheureux, il croyait voir en mes yeux la femme qu'on pleure. Et follement, j'espérais qu'un matin il me dirait « Suis-moi, je t'emmène ». J'aurais dit oui, je le sens, mais il a fui, me laissant arriver à ma chaîne. Il avait un regard très doux, il s'en allait je ne sais où. J'ai rêvé de l'étranger et le cœur tout dérangé par les cigarettes, par l'alcool et le cafard. Son souvenir chaque soir m'a tourné la tête. Mais on dit que près du port, on a repêché le corps d'un garde marine qui par l'amour délaissé ne trouva pour le bercer que la mer câline. Il avait un regard très doux, il est parti je ne sais où.
C'était L'étranger, chanté par Damien en 1937. Si vous désirez écrire à Concordance des Temps, notez bien cette adresse, concordancedestemps@radiofrance.com. Vous pouvez aussi réécouter l'émission de la semaine sur notre site franceculture.com.